Signe des temps, Marc Wetzmann.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un article de Brigitte Salino le soulignait récemment dans Le Monde, la tragédie grecque est de retour sur scène, et en particulier l'histoire des Atrides. À Gand, en Belgique, Milo Rau vient de monter Oreste à Mossoul. À Lyon, en juin, Daniel Lavaudan montra l'Orestie d'Eschyle. Et la Comédie Française offre en ce moment deux pièces de Ripide en une, Electre et Oreste, dans une mise en scène particulièrement sauvage de Ivo Van Hove, le metteur en scène belge à qui l'on doit déjà, après des adaptations scéniques de Cassavetes, Pasolini, Genet ou Tchekhov, la mise en scène de Lazarus de David Bowie à New York en 2015, et plus récemment en Avignon, une adaptation théâtrale des Damnés de Visconti. C'est sur cette mise en scène de la Comédie Française, donc, Electre et Oreste, très spectaculaire, qui fait salle comble à la Comédie Française jusqu'à la fin juillet, que l'on va s'arrêter aujourd'hui. C'est un spectacle organique, rythmé et violent, dont le public un peu estomaqué ponctue les péripéties sanglantes comme on suivrait dans l'épisode de Game of Thrones. Un spectacle tendu, fait de terre humide, de chair violentée, de haine extatique et de transe meurtrière, qui sera repris cet été en Grèce au Festival du Théâtre Antique d'Épidaure et qui en attendant fait presque exploser les limites de la salle à l'italienne. Un spectacle dont Ivo Van Hove a pris soin de ne conserver que l'essentiel, c'est-à-dire la cruauté et l'ironie, et dont il a aussi soigneusement éliminé tout espoir de réconciliation. Un spectacle qui va être l'occasion de nous demander non pas en quoi la tragédie antique est moderne, mais bien plutôt de quoi nous parle son archaïsme. À quoi il fait écho chez nous. Et pour en parler, Souliane Brahim, bonjour.
Bonjour.
Vous avez fait des études littéraires à l'Institut National des Langues Orientales. Vous avez étudié notamment le Swahili.
Oui.
J'ai fait des études théâtrales à l'École nationale supérieure des arts et des techniques du théâtre. Et vous êtes sociétaire à la Comédie Française depuis combien de temps?
Je suis rentrée en 2009 à la Comédie Française et ça fait quelques années maintenant que je suis sociétaire.
Et vous êtes électre dans le spectacle.
Oui.
Christophe Monterès, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes Oreste.
Oui.
Vous avez grandi à Toulouse et découvert le théâtre dès l'adolescence. Vous avez fait les conservatoires de Toulouse. Et puis, vous avez étudié aussi le théâtre à Bordeaux avant de monter votre propre collectif de théâtre qui s'appelait les Bâtards Dorés.
Qui s'appelle les Bâtards Dorés.
Qui s'appelle, ouais. Ça existe
ouais,
encore.
Tout à fait.
Et vous êtes aujourd'hui à la Comédie Française depuis 2014.
C'est ça.
Vous avez joué beaucoup de spectacles, évidemment, mais en particulier dans l'adaptation du film de Visconti, Les Damnés, déjà par Ivo Van Hove, qui vous a valu une nomination au Molière de la révélation théâtrale. Mmh. William Marx, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en littérature comparée. Vous êtes aussi professeur au Collège de France.
Élu pour l'instant,
professeur
en fonction
élu
seulement à partir
au Collège de France
de cet automne.
Et l'auteur de plusieurs livres, dont La haine de la littérature, qui a été sélectionné au prix des Cendres en 2015, et puis Le tombeau d'Œdipe pour une tragédie sans tragique, publiée chez Minuit en 2015, dont on va parler tout à l'heure. Et Philippe Brunet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes devenu célèbre récemment avec la mise en scène des Suppliantes qui a fait couler beaucoup d'encre depuis qu'elle a été, qu'il y avait une tentative de censure autour de cette pièce qui a heureusement échoué. Puisqu'elle a finalement été jouée quand même, qui a réussi dans un premier temps, mais finalement, vous avez quand même continué à la jouer. Vous êtes helléniste, metteur en scène, vous enseignez le grec ancien à l'Université de Rouen. Vous avez fait une thèse de doctorat sur le vers dactylique lyrique dans la tragédie grecque. Vous avez traduit des poèmes de Sappho, d'Hésiode, vous avez traduit l'Iliade. Enfin, vous êtes extrêmement versé sur la question. Vous dirigez depuis 1995 la compagnie donc Demodokos, spécialisée dans les adaptations pour la scène de textes antiques grecs, dont les Suppliantes. Voilà. Alors on va tout de suite se mettre dans le bain de ce spectacle Electre-Oreste avec un extrait du spectacle.
Thank you.
Alors, tout n'est
voilà,
pas...
Voilà.
On a tout compris. Hein.
Alors, voilà, c'est un peu ça, oui. Donc, il s'agit de la scène où vous, Suzanne Brain, donc vous, Electre, et le chœur, vous dansez autour du cadavre d'Égiste. C'est avant, je crois, que c'est avant la castration du cadavre. Oui. Mais ça, tout n'est pas à ce niveau, mais ça donne quand même un peu l'atmosphère générale. D'abord, sur le plan d'interprétation, d'abord, la question vaut pour tous les deux. Ça représente quoi de jouer à ce niveau d'intensité en termes de travail?
Bah, c'est déjà, basiquement, c'est fatigant quand même. C'est vrai, surtout que c'est une maison, la Comédie Française, une maison d'alternance. Donc, il y a plusieurs spectacles qui jouent en même temps. Donc, ça dépend dans quoi on tombe. Mais si on est dans plusieurs productions en même temps, c'est aussi. Enfin, pas que d'ailleurs, puisque Juliane n'est pas dans les damnés qui joue aussi en même temps et elle est quand même très fatiguée. Donc, non, c'est un spectacle qui coûte d'un point de vue physique, émotionnel, oui, à la voix aussi. Il se fragilise quand même de plus en plus, hein, on va pas se mentir. Et puis, oui, c'est les conditions du plateau sont aussi rigoureuses et voire un peu dangereuses, des fois un peu limite avec cette boue au sol qui, moi, m'a valu un doigt un peu, enfin, luxé, qui s'est retourné, à la première répétition, par exemple, et qui nous met dans cette chose-là un peu fragile, en tension, mais qui, voilà, faut faire attention, voilà. Puis, oui, je sais pas, vas-y.
Souviens-toi.
J'avais déjà vu des spectacles d'Ivo Vanov. J'ai l'impression qu'à chaque fois, il est dans un geste de théâtre artistique assez radical, qui est très différent d'un spectacle à l'autre. Mm-hmm. Donc finalement, dans ces spectacles, j'ai toujours vu et reconnu une forme d'engagement dans sa façon de faire du théâtre et de ce que ça pouvait demander aux acteurs. Mais c'est vrai que celui-là, particulièrement, et c'est ce que je trouve assez beau dans son désir d'avoir voulu se confronter à ce répertoire et de la manière dont il l'aborde, il y a un truc assez primitif, un peu que j'aime beaucoup en fait. Après voilà, j'avais lu des petites choses au moment des répétitions parce que c'est un répertoire souvent quand on est acteur et notamment jeune acteur qu'on aime travailler quand on est au lycée ou à l'école, en tout cas pour les filles, je sais pas pour les garçons, mais souvent les filles, c'est des rôles qu'on a envie de travailler, auxquels on a envie de se confronter. Et après, c'est pas régulièrement monté, donc en tout cas pour ma part, c'est un truc qui a été laissé de côté pendant très très longtemps. Et je me demandais bien comment j'allais me reconfronter à tout ça. Et je trouvais ça assez beau de la part d'Ivo Vanov de vouloir le faire avec des percussions, pieds nus pour les filles, parce qu'on est toutes peu vêtues, pieds nus, avec nos corps sont sales, les pieds dans la boue et ces danses un peu tribales, animales. Ça a été quelque chose que j'ai aimé qui m'a... Et du coup, j'ai pu accepter en fait l'ensemble de la proposition, les endroits où il voulait aller explorer, qui sont parfois à la limite de ça questionne la violence, la barbarie au théâtre, et puis on y va fort. Mais c'est parce qu'au départ, il avait quelque chose comme ça de très simple dans le geste, vraiment de faire du...
Puis il y a quelque chose d'assez jouissif aussi dans cette régression-là, enfin en tout cas en tant qu'acteur au plateau, dans cette boue.
C'est fantaisiste.
Du coup, c'est, malgré ce que je disais, de la fatigue et des aspects qui peuvent être contraignants, c'est aussi une grande joie et un point très positif, tout ça, cet aspect primitif avec cette terre, cette boue, tous ces fluides. Il y a quelque chose aussi bizarrement d'un jeu d'enfant derrière tout ça. Enfin,
un toujours qui nous rattrape. Un peu infernal, quoi.
Ouais, peu quand même, un peu cauchemardesque, mais je veux dire de se rouler dans la boue et de, enfin, il y a quelque chose de qui nous ramène directement à quelque chose. On sent de fort.
C'est primal.
Ouais, un peu, ouais.
Mais en même temps, en lisant Euripide, je sais que quand on a commencé à travailler, moi j'avais lu aussi donc Sophocle, Eschyle. Et j'étais troublée par l'écriture d'Euripide en me disant c'est étrangement poétique, le rapport au texte n'était pas comme d'habitude, en fait. Et puis avec un peu la radicalité d'Ivo Vanov, les coupes, cette volonté qu'il a eue de réunir deux pièces pour en créer une troisième qui n'existait pas encore.
Oui.
Il y avait quelque chose, en fait, de... C'est comme un théâtre d'action, en fait. C'est très actif.
Oui.
Il n'y a pas trop de moments où il y a des monologues, où on réfléchit, où en fait les personnages, il y a quelque chose qui avance par ce qui est dit. Et ce qui est dit, ça crée de l'action, des actes. Et finalement, après, c'est vrai que sa scénographie ou cette musique qui est là, qui avance, il y a un truc un peu organique, ouais.
Oui, ce qui est dit, enfin, c'est il y a un mélange de poésie et de radicalité dans les dialogues, dans les rapports entre les personnages, en particulier Electre et sa mère Clytemnestre, qui sont extrêmement brutaux et à l'os, quoi, que la mise en scène fait ressortir particulièrement, il me semble. Philippe Brunet, vous avez vu le spectacle ?
J'ai vu hier. Il faut dire que c'est spécial de voir ce spectacle là dans la salle à l'italienne de la Comédie Française, hein, parce qu'on a toute l'architecture du théâtre qui est très présente, très très classique, et le plateau est complètement occupé. La porte qui est un accès sur l'extérieur, sur leur scène, elle est au milieu du plateau. Et puis le fond, jardin à cour, est occupé par les deux moitiés de l'orchestre, enfin du quatuor de percussion. Donc en fait, il y a très peu d'espace. Il y a même pas d'espace pour le chœur. Donc souvent, le chœur est expulsé. Et puis, il y a même pas d'espace où on peut se réfugier, puisque tout est envahi par la matière, par les matières diverses. Puis il y a cette porte très, comment dire, une espèce de U renversée, un peu arche de la défense, très très géométrique, très 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 dure. Enfin, dans son aspect un peu carré, un peu anguleux comme ça. Et donc il y a pas tellement de place, pas d'espace. Parfois on va se réfugier dans les coins. On voit les comédiens, les personnages, Electre, acculés à l'extrême recoin de l'avant-scène, jardin ou cour. Enfin, on est comme ça. Donc comme si l'espace était expulsé et qu'il fallait quand même ensuite du coup se sentir essayer d'exister sur ce plateau. Mmh, mmh, mmh. Saturé, ou en plus les voix. Alors, il y a des choses à dire parce que les voix sont sonorisées.
Oui, les voix sont sonorisées. Ouais, oui. Ouais, ouais.
Ce qui est aussi d'une dimension très particulière.
Parce que j'imagine qu'avec le volume sonore de la musique, c'était inévitable, non ?
On en parlait, parce qu'il y a eu beaucoup de critiques, positives ou négatives d'ailleurs, mais sur justement cette qualité du son, sur la gestion du son, des micros, comment être audible au mieux, faire passer au mieux ce qu'on a à faire passer, et du coup c'est... Ouais, voilà, c'est une question. Est-ce que micro, pas micro? Après, inévitablement, comme vous l'avez souligné, avec les percussions, on ne pourrait pas parler sans micro.
Bien sûr, bien sûr. Vous n'avez pas gêné, hein.
Ouais. Ça fait presque partie de l'esthétique de la plupart des spectacles d'Ivo Vanov. Mmh. Dans beaucoup de ces spectacles, il y a des micros. Et finalement, après, je ne sais pas aussi après ce qui est justement aussi de l'ordre des contraintes du théâtre à l'italienne, la salle Richelieu. Petit à petit, voilà, l'équipement adéquat arrive au fur et à mesure. Je ne sais pas, peut-être que là, on n'est pas au top. Parce qu'en même temps, au moment des répétitions, ça permettait de mettre de l'intime. Du plus petit dans cette grande histoire, dans ces grandes traversées.
Puis il y a de la psychologie chez Euripide.
Ouais, ça permettait
Les individus existent de manière plus complexe que chez Eschyle.
Et puis Vovanov avait, en tout cas dans le travail, a souligné tous ces moments. C'est ça qui était assez qui était chouette dans le travail, en fait. Ce qui faisait aussi que nous, on n'était pas écrasés par le mythe, enfin les mythes. Les atrides, etc., ça permettait de remettre aussi des relations, mère-fille, frère-sœur, et voilà, de toute façon, on a travaillé comme ça. Donc, ouais.
Alors, William Marx, vous n'avez pas vu le spectacle?
Non, je n'ai pas juste cette chance.
On peut parler une seconde de Ripide, à défaut de parler du spectacle. Ouais. La particularité de Ripide par rapport à Eschyle ou Sophocle, notamment, dans cette... dans le traitement des...
C'est toujours extrêmement difficile de parler de, d'un de ces auteurs par rapport aux trois autres, aux deux autres, j'entends, parce que nous n'avons qu'une toute petite partie de leur œuvre. On pourra peut-être y revenir plus tard. Mais c'est vrai que quand on compare l'Électre de Ripide avec celle de Sophocle, ou avec la pièce comparable d'Eschyle, ou au reste, a fortiori avec les Euménides d'Eschyle, ce qui est quand même très très frappant, c'est le caractère extrêmement bavard de ces pièces. C'est-à-dire que les personnages s'expriment, ils expriment vraiment leur... Ils réfléchissent à ce qu'ils vont faire, il y a des argumentations avec eux-mêmes, avec les autres, et de véritables discours, des débats, et donc...
Il y a une intériorité.
Oui, il y a une intériorité, et du reste, quasiment l'intériorité apparaît, elle est nommée dans Oreste, puisque Oreste dit, alors j'ai pas vu la pièce, mais Oreste dit que ce qui l'accable après le meurtre de sa mère, le meurtre de Clytemnestre, ce sont non pas finalement les Euménides, les Érinies qui le poursuivent, mais c'est sa conscience, Sunesis. Et donc c'est ce terme-là apparaît, c'est-à-dire que réellement il y a il est obsédé par le remords, et ce n'est plus transporté sur une divinité extérieure. La divinité extérieure est quasiment représenté comme étant une sorte de délire qu'il a, c'est presque métaphorique. C'est quasiment dit presque clairement comme cela dans la pièce elle-même. Et donc il y a là pour le coup un changement. On a beaucoup parlé d'une sorte de modernité de Ripide par rapport à Sophocle. Moi je n'irai pas jusque là parce que Ripide et Sophocle sont totalement contemporains l'un de l'autre. Ils ont 10 ans de différence et donc simplement deux visions, deux conceptions. Non pas du monde, mais de conception aussi du théâtre aussi, qui sont très différentes. Et Sophocle étant plus hiératique et Euripide cherchant effectivement une sorte de mélodrame et de l'action. C'est une pièce avec énormément d'action, en particulier au reste.
C'est drôle parce qu'il y a aussi, dans cette scène du vieillard notamment, on disait qu'il fait aussi le pied de nez à ses prédécesseurs. Moi après, ses prédécesseurs de peu, mais dans la scène du vieillard par exemple, Électre renvoie le vieillard dans son camp en lui disant mais... Parce qu'il dit, regarde si ses cheveux ne sont pas, enfin, cette fameuse scène de post-reconnaissance. Et c'est assez drôle. Il y a même de l'humour, je trouve, chez Ripide, où Electre se fout de sa gueule en disant, mais tu deviens vraiment, tu yoyotes un peu. Et c'est drôle de voir comment aussi il s'accapare des codes et qu'il peut transformer aussi.
Alors, c'est justement ce qu'on a beaucoup reproché à Ripide, c'est-à-dire effectivement d'avoir de l'humour, d'avoir de la comédie à présente, enfin, quelque chose qui pourrait nous sembler de la comédie à l'intérieur même de ces tragédies. C'est pourquoi ces pièces ont été relativement peu accepté par les modernes, contrairement à Sophocle, Eschyle. Et donc, Oreste a eu un succès. C'est l'un des best-sellers. Enfin, c'est l'un des grands clous du spectacle de l'Antiquité. Oreste a été peut-être l'une des pièces la plus représentée dans l'Antiquité. Mais à l'époque moderne, elle était presque oubliée. Et c'est très bien qu'elle revienne maintenant.
Alors, la tragédie grecque, enfin, ou même tout l'imaginaire grec est hanté par le parricide en général. Les fils tuent leur père tout le temps dans le monde grec. Cronos tue son père Ouranos, Zeus enchaîne son père Cronos, Œdipe évidemment, on n'en parle pas. Mais là, ce qu'il y a de particulier dans Électre Oreste, c'est le matricide. C'est une caractéristique de cette histoire et ça fait appel, on a l'impression que ça fait appel à quelque chose de moins grave juridiquement, mais de plus profond d'une certaine manière. Il y a une espèce de... Ça fait appel à des forces plus obscures. Enfin, Oreste a peur de quelque chose de particulier à l'idée de tuer sa mère et au fait qu'il la tue.
Ce que disait Ivo, peut-être que vous l'expliquerez mieux que moi, relayant sa parole, mais que c'est le matricide, c'est la chose défendue, c'est la pire chose qu'on puisse faire à cette époque-là. Et ce qui est beau, c'est de voir aussi le grand-père Tindar qui lui évoque, enfin, lui représente justement la loi, la justice pure et dure. Il dit cette femme-là, ma fille, devait mourir pour avoir tué son mari, mais ce n'était pas
mais
à
pas
son fils, elle lui donnait la mort.
Ouais.
C'est tout. Mm-hmm. Mais c'est quand même la chose, l'interdit, la transgression, la plus forte.
La transgression suprême.
Suprême, c'est de tuer la mère. Enfin, peut-être.
En même temps, dans la pièce, alors je ne sais pas si le passage a été conservé par Ivo Arnaud, parce que apparemment le texte a été transformé, mais lorsque Oreste se défend devant les Argiens, il dit que finalement il est moins grave de tuer sa mère que pour une femme d'avoir assassiné son mari, parce que c'est dans la physiologie de l'époque, je sais pas si ça a été conservé, mais dans la physiologie de l'époque, c'est le père qui engendre réellement l'enfant et la mère ne fait que nourrir le bébé. Donc il y a une vraie représentation des genres ici qui ne correspond évidemment pas à notre conception moderne. Donc ces pièces-là, elles sont aussi ancrées dans des conceptions du monde et des visions qui ne sont pas les nôtres.
Oui, mais, hein. Oui, mais alors, dans le cas de Ripide, on a l'impression qu'il y a une dialectique particulière du féminin et du masculin. Enfin, Ripide donne une importance particulière aux femmes, hein. C'est Médée, c'est lui qui a l'idée que Médée va dévorer ses enfants. Et dans Electre et Orestes, vous parliez tout à l'heure, Soulian Brahim, de la lecture de ces pièces pour une fille. Il y a le personnage d'Electre est très particulier. On a l'impression que c'est elle qui fait finalement agir Orestes. Et elle a une haine particulière pour sa mère. Elle a une espèce d'adoration pour un père qui est mort, qui a été assassiné par sa mère, mais qu'elle n'a pas connu, pas vraiment connu. Elle surjoue sa misère et son amertume. Il y a une espèce d'énergie. C'est elle qui est vraiment la force. D'ailleurs, elle le dit, c'est moi qui préparerai le meurtre de ma mère. C'est elle qui dit ça.
Elle fait partie comme ça, ouais, de ces personnages, même si c'est très différent, mais Antigone, par exemple, aussi, c'est Iphigénie, ces personnages féminins, j'ai découvert ça assez tardivement, là, mais j'aimais bien, en fait, l'idée de travailler sur des personnages qui sont enfermés dans quelque chose. Mmh. Et effectivement, chez Electre, il y a vraiment cette chose autour du père, le nom du père, et c'est même au-delà de la vengeance, c'est-à-dire qu'elle est enfermée dans un sacrifice total. Elle sacrifie ses cheveux, elle sacrifie son corps, sa vie, c'est presque trop.
Mais c'est pas Antigone pour autant, elle est beaucoup plus active qu'Antigone, elle est beaucoup plus...
Oui, mais le fait est que de toute façon, finalement, le dieu n'a pas demandé à Electre d'aller venger le père, de tuer la mère. En fait, c'est le frère, le garçon qui doit le faire, donc elle peut rien faire.
Oui, mais c'est elle qui le fait se mouvoir, son
oui,
frère. En elle, fait.
Oui, mais je trouve que ce qui rend tout complexe, c'est que finalement, elle a peu de marge de progression, quelque part, j'ai envie de dire, c'est que ça fait des années qu'elle se prépare pour cette vengeance. Or, c'est pas elle qu'on a demandé de le faire, c'est pas elle qui le fera. Et en fait, tant qu'elle ne le fera pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui un peu monolithique, qui ne bougera pas, comme, pour moi, Antigone, il y a quelque chose, en fait, qui est bloqué, quoi.
C'est aussi que pour Antigone, elle n'a plus rien à faire, puisque les deux frères sont morts, et donc il n'y a plus personne à venger.
C'est moins actif.
Ouais. Donc c'est dans la mort et au-delà de la vie que les choses se passent. Tandis qu'Electre est très très active, et puis elle a l'avantage que dans la dramaturgie de Ripide, qui n'est plus celle d'Eschyle, pour que Clytemnestre paraisse, Electre n'est pas obligée de disparaître, en fait. Parce que dans la pièce d'Eschyle, l'écho est fort, c'est ça, en fait.
Mais en même temps, par exemple, quand... je trouve ça assez beau quand Pilate vient lui annoncer que Orestes va venir lui apporter le cadavre d'Égiste. Et je trouve ça assez beau parce qu'elle dit aux lumières, aux chars rayonnants du soleil. Donc on a l'impression, mes yeux vont pouvoir se lever, regarder librement, car Égiste est tombé, l'assassin de mon père. Or, c'est pas complètement vrai. C'est-à-dire que ça va pas être la lumière. Mmh. Il y a quelque chose, à partir de ce moment-là, dans la pièce, quelque chose vient d'être acté, effectivement. Et c'est le début des enfers, en fait. Oui. Ils vont rentrer dans les ténèbres. Après, arrive tout de suite le meurtre de la mère de Clytemnestre qui serait censé libérer quelque chose et en fait non. Elle fait tomber son frère et elle avec dans en enfer quoi en fait.
Dans vraiment une spirale de violence. Oui.
Ouais. Ouais,
en enfer. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de pré Lady Macbeth dans le personnage d'Electre, cette façon de cette espèce de virilité comme ça, c'est moi qui vais préparer le meurtre de ma mère, c'est moi qui vient entraîner mon frère, comme Lady Macbeth entraîne Macbeth.
Bon, on peut dire deux choses. D'une part, qu'effectivement, les personnages qui nous sont montrés ne sont pas des modèles, en fait. Ce ne sont jamais des modèles présentés aux Athéniens pour qui les pièces étaient présentées. Ce sont des monstres. Ils sont dans des situations monstrueuses. Et ce sont toujours des situations exceptionnelles. Et donc, une fille comme Electre ne devrait jamais existé, mais elle existe dans le mythe et le dramaturge la présente. Après, Euripide essaie de lui donner une rationalité, quelque chose qui la rende réelle et plausible devant son public. Mais effectivement, elle est monstrueuse déjà pour les Athéniens. Donc, comme Lady Macbeth peut l'avoir été. Et puis il y a cette influence quand même aussi très forte, effectivement, de ce théâtre tragique vers les modernes, hein, via souvent, alors Shakespeare n'avait pas lu directement les Grecs, mais il avait lu Sénèque, enfin, il avait été formé par Sénèque. Et le fait est que, par exemple, Oreste, c'est assez fascinant, Oreste c'est l'anti-Hamlet. C'est-à-dire que Oreste est celui qui, Hamlet étant celui qui refuse d'agir, qui n'arrive jamais à trouver le moment de l'action, Oreste est celui qui est toujours au devant de l'action et qui en souffre au bout du compte autant que Hamlet. Donc il y a vraiment une sorte de dialectique entre le personnage d'Oreste chez Euripide et celui d'Hamlet chez Shakespeare. Je trouve que c'est assez fascinant. On devrait jouer les deux pièces ensemble, enfin, les unes à la suite des autres, pour voir la montre très différente. Après un lettre Oreste, faire un Oreste Hamlet, ce serait prochain projet que je propose.
Je voudrais vous citer trois phrases de l'essayiste italo-américaine Camille Paglia, que je tire de Sexe et violence, le préface qu'elle a fait à son livre Sexual Personae, qui date des années 90, où elle dit « D'Electre et Médée à Lady Macbeth, les femmes tragiques sont moins morales que les hommes, leur volonté de pouvoir est nue, elles sont le vecteur de l'irrationnel ouvrant le genre tragique aux forces barbares que le drame exorcise. » Et elle voit la tragédie grecque en particulier comme un conflit entre l'ordre patriarcal dionysiaque et les pulsions octoniennes, terrestres, terriennes, qu'elle assimile à la féminité. Je ne sais pas si je lance ça comme ça, si un d'entre vous, si ça donne une idée à quelqu'un, pour réagir, Philippe Brunet.
Pour ce qui est de Dionysos, plusieurs fois dans le texte grec, le cœur s'adresse à Oreste, ou Électre s'adresse à Oreste, et lui dit « mais quelle fureur, quelle inspiration bachique, dionysiaque te possède ?» Et donc il y a vraiment la question du devenir bacchant qui se pose sans arrêt pour Oreste. Est-ce qu'elle se pose pas pour une femme? Donc ça c'est la question, votre citation, ça c'est intéressant.
Pour continuer ce que dit Philippe Brunet, Dionysos c'est quand même celui qui donne le pouvoir aux femmes, alors qu'elles ne l'ont pas, ou très peu, ou très différemment dans la cité. Dionysos c'est celui qui donne aux femmes le pouvoir de s'émanciper de la cité, des règles de la cité, de manger les animaux crus, de manger leurs propres enfants. Enfin, c'est ce qu'on voit dans les bacchantes d'Euripide. Donc le fait de représenter, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, le fait de représenter des femmes qui prennent le pouvoir, qui tuent leurs proches, qui exercent la justice, c'est des choses qui ne devraient pas arriver dans un monde normal grec. Mais ça arrive sur la scène, parce que la scène représente précisément un autre monde, une altérité. Et c'est cela aussi l'objet du théâtre tragique.
Dans la mise en scène d'hier, l'acte le plus cruel, donc la castration d'Égiste, est effectué par Électre. Et un peu comme dans les guerres serbo-croates, les femmes énucléaient les morts pour éviter la moindre possibilité d'une vengeance ultérieure. Et comme dans l'écho et fort, déjà, on suppose qu'Agamemnon a été entièrement mutilé pour ne pas ressurgir, pour ne pas revenir. Donc les femmes aussi ont une espèce de connaissance de la vie et de la mort, puisqu'elles enfantent, puisqu'elles ont ce savoir-là aussi sur la menace toujours potentielle.
Voilà. Ouais. Plus proche d'une espèce de nature que immaîtrisable, c'est ça.
Voilà.
On parlait des enfers, Sliane Brahim. On va écouter un peu les enfers grecs. C'est le voile d'Orphée de Pierre-Henri, où là on a vraiment les puissances chtoniennes qui s'expriment. C'est les âmes des morts, en fait, qui appellent Zeus, et qui demandent à Zeus de l'énergie qu'ils n'ont pas, mais qu'elles ont pourtant suffisamment pour être assez inquiétantes quand même.
Ouais, ça fonctionne plutôt bien.
William Marx, vous écrivez dans Le Tombeau d'Œdipe que, d'une part, la tragédie n'a rien à voir avec ce qu'on nomme communément le tragique, et que d'autre part, il y a un grand mystère, puisqu'on ne sait pas en fait ce que c'était que les tragédies antiques. On n'en a qu'une très faible idée, et que pourtant, d'une certaine manière, elle nous appelle puisqu'elle nous parle. Enfin, quelque chose fait écho, mais c'est très difficile de savoir quoi.
C'est-à-dire qu'elles sont vraiment au cœur de notre culture, hein. Elles sont toujours représentées, elles attirent encore les metteurs en scène, nous ne cessons de les relire et de les réinterpréter, mais il s'agit de cette réappropriation est aussi à bien des égards une trahison par rapport à quelque chose que nous ne connaissons pas vraiment. Nous avons des éléments, hein, qui permettent de répondre à certaines questions concernant les tragédies, mais néanmoins ce que nous connaissons est très très peu par rapport à l'iceberg en fait de tout ce qui a disparu. Pour donner un exemple, nous n'avons que 32 tragédies complètes, hein, qui nous sont restées de l'Antiquité. Or, il y avait des centaines et des centaines de tragédies qui ont été représentées dans les siècles où les tragédies étaient là. Et nous ne sommes pas sûrs, et la question de savoir, nous ne sommes pas sûrs que les 32 tragédies que nous avons représentent la tragédie standard ou normale de l'époque. Et par exemple, l'une des choses que j'avais essayé de montrer dans cet ouvrage, le Tombeau d'Œdipe, c'est que précisément ce concept de tragique, à savoir l'idée que les tragédies représenteraient de manière systématique l'homme confronté à son destin, écrasé par le destin, etc. C'est en fait une conceptualisation extrêmement moderne, hein, liée à la philosophie allemande de la fin du 18e, du début du 19e siècle. Et on peut assez bien montrer que ça ne correspond pas à l'ensemble des tragédies. Et qu'en fait, on pouvait montrer par un raisonnement, je ne vais pas refaire ici, mais qu'en fait, une bonne partie des tragédies grecques, en particulier des tragédies d'Euripide, mais aussi de celles de Sophocle, et sans doute aussi de celles de toutes les dizaines d'autres dramaturges qui existaient à l'époque, ces tragédies-là finissaient bien. Et oui. Donc, ce que les modernes ont reproché à Euripide, souvent, c'est-à-dire de faire des tragédies qui finissaient bien, en fait, ça correspondait au modèle standard de la tragédie. C'est-à-dire qu'effectivement, ça représente un monde qui est sans dessus-dessous, mais à la fin, comme à la fin d'Oreste, effectivement, Apollon revient et puis l'ordre est rétabli, ou comme à la fin des Euménides dans Eschyle. Il y a souvent le retour de l'ordre. Donc ces tragédies que Hegel appelle celles de la réconciliation sont en fait les tragédies normales.
En fait, dans le spectacle tel qu'il est présenté à la Comédie Française, la réconciliation est traitée de manière complètement sarcastique. Hein. Le monologue final d'Apollon est d'abord très coupé, et puis il est suivi d'une espèce de dernière image qui le ruine, qui en ruine complètement tout espoir de sens.
C'est aussi peut-être parce que notre époque n'aime pas trop la réconciliation. Peut-être que nous préférons avoir effectivement quelque chose qui soit plus moderne et qui renvoie à une sorte de dissonance.
Moi, je dirais que...
Philippe Brunet.
Enfin, si je peux revenir sur ce qui s'est fait hier, ce que j'ai vu hier, ce qui m'a évidemment, pas heurté, mais... En fait, pour moi, la tragédie, c'est vraiment une lutte entre le chaos qu'on a vu, auquel vous êtes livré entièrement, vous avez donné toutes vos forces dans ce chaos, mais en même temps, c'est la coexistence avec ce chaos de forces qui maintiennent une harmonie, celle du cosmos, et malgré tout, ça tient. Et ça, c'est notamment par la danse et par la musique. Et il n'y a rien à faire... Et dans le cercle d'Épidore, puisque vous êtes amené à jouer là-bas, vous êtes en prise avec cette harmonie du système, du théâtre. Et là, c'est très très difficile d'avoir cette prise, quand même, d'avoir ce rapport de contradictoire, nécessairement contradictoire avec l'harmonie, avec le rythme, avec la... Et on a l'impression parfois qu'on se perd, on s'engloutit entièrement dans le chaos, on rebondit encore dans le chaos et... Et finalement, ça tient aussi au fait qu'on a dû raccourcir et enlever le cœur et puis nous ôter tout espoir, en fait, d'avoir cette contradiction, en tout cas. Et cet espoir ou ce regret.
D'un ordre rétabli.
D'un ordre rétabli ou là, permanent, parce que malgré tout, c'est là. Et si Apollon vient à la fin, c'est pas pour rien non plus. Donc il n'est pas là comme quelqu'un qui sort de sa boîte. C'est que quand même, il était là et qu'il avait aussi une visée qui permet aux choses d'être aimantées. Il y a l'amour. Quand même, il y a l'amour, toujours. Et c'est aussi au nom de cet amour que les choses se font, ou que le frère...
Après, je crois que, ouais,
c'était pas, je pense, j'entends ce que vous dites et j'écoute avec, enfin, un grand intérêt. Je pense que c'était pas le projet, en effet, du metteur en scène qui a, comme disait Suliane, condensé deux pièces en une autre qui n'existe pas et lui voulait montrer, c'est ça, cette idée de processus de radicalisation et de quelque chose qui, contre vents et marées, s'achemine vers le chaos. Je pense qu'il était
plus. Le fait est beaucoup plus crédible. Parce que le Deus Ex Machina final d'Apollon, il est quand même un peu difficile à avaler.
Parce que nous ne vivons plus dans un monde où l'idée d'harmonie, de cosmos et d'un ordre cosmique domine, effectivement.
Mais il y a peut-être des choses à entendre
de ce point de vue. Mais ça paraît ce que dit Philippe Bonnet, très juste.
Sans que ce soit volontaire, j'ai l'impression quand même que le théâtre d'Ivo Vanov est quand même souvent politique.
Oui, oui.
Avec beaucoup d'élégance. D'ailleurs, donc nous, la première fois qu'on l'a rencontré et qu'il nous a parlé du projet, l'idée, c'était vraiment, et il nous l'a exprimé en trois phrases, ce qui l'avait intéressé, c'était d'abord Electre, puis finalement Oreste, et de réunir les deux, puisque il y trouvait trois figures de jeunes. Mm-hmm. Le frère, la sœur, qui au départ vont accomplir un acte de vengeance, légitimé d'ailleurs parfois par le cœur ou qui pourrait l'être par la société puisque c'est demandé au nom d'un dieu. Puis ensuite le matricide où déjà là il y a tout le monde commence à faire un peu marche arrière et avec Oreste et avec le personnage de Pylade. Pylade finalement c'est celui qui a une patrie, qui a une famille, etc.
Et qui perd des causes romantiques,
qui finalement va se radicaliser, qui va en venir aussi à la violence,
Oui.
Et montrer comment d'une vengeance soi-disant légitime, ça devient de la barbarie, de la violence pour la violence, et donc ces personnages sont petit à petit complètement déshumanisés. Et je me souviens que pour lui, en fait, l'arrivée d'Apollon, puisque finalement il y a aussi une quatrième, jeune, c'est le personnage d'Hermione, qui est comme la génération qui arrive, qui est plus jeune que Oreste, Pylade, Electre, qui est prise en otage, et que pour lui c'était finalement le rêve de d'Hermione, c'est-à-dire avant d'être tuée. D'imaginer que le monde dans lequel elle vit puisse être différent et fait et d'amour harmonieux. Et fait de réconciliation. Or après, effectivement, pour l'instant, il est fort probable que nous vivons pas dans ce monde.
C'est ça.
Et
mais
c'est la lecture du metteur en scène.
Mais alors pour rester dans la dynamique de la tragédie, il y a un élément que vous donnez, William Marx, dans votre livre, moi je vois un lien avec ça, avec ce qu'on vient de se dire. Quand vous dites que la tragédie est avant tout, dans l'Antiquité, une histoire des lieux. C'est-à-dire que le héros grec est fondamentalement local. Tous les lieux sont toujours très identifiés et la tragédie intervient, c'est vraiment l'histoire d'une famille associée à un endroit. En l'occurrence, Mycène, ça peut être Sparte, ça peut être... Et les lieux ne sont plus possibles aujourd'hui. C'est-à-dire, d'abord, on ne sait plus quels étaient
les lieux.
Les lieux ont disparu.
Et tout l'environnement, tout ce qui y allait, les rites autour.
Et est-ce que, du coup, comme la réconciliation finale, quand le dieu intervient, c'est pour réconcilier la cité. Si la cité n'existe plus, la réconciliation n'est plus possible. C'est-à-dire qu'on a affaire à un théâtre. La manière dont on voit ce théâtre est une vision de gens qui sommes sans lieu, d'une certaine façon, par rapport à la tragédie antique.
Et de cette manière, nous sommes aussi un petit peu orphelins de la tragédie, c'est-à-dire que effectivement, ce qui donnait ordre et sens à la tragédie, c'était tout un aspect rituel, civique, très important, qui a disparu et qui faisait sens de ces spectacles. Et le fait est que nous, modernes, maintenant, nous avons la liberté totale, évidemment, sur ces textes, qui nous arrivent dégagés de tout ce substrat. J'ai souvent tendance à dire que la tragédie nous arrive, en fait, comme le Parthénon ou comme la Vénus de Milo nous arrive. Sauf que quand nous voyons la Vénus de Milo, nous voyons qu'il lui manque les bras. Et donc nous avons conscience que nous avons affaire à une ruine. Mais c'est ce qui nous arrive comme texte, ce sont des ruines. Mais nous n'avons pas conscience. Et donc nous prenons des totales libertés, c'est normal, hein, c'est la façon moderne d'agir en tant qu'artiste, avec ces textes. Mais après, le travail du philologue ou de l'helléniste, c'est peut-être aussi de dire que ça pouvait être autre chose, peut-être quelque chose qu'on ne peut pas toujours décrire positivement, mais qu'on peut décrire au moins négativement.
C'est quand même d'abord un combat avec la forme. Quand j'ai parlé d'harmonie ou d'amour, c'est-à-dire que c'est le plus difficile. C'est-à-dire que la traduction a été très peu commentée. Enfin, c'est la traduction de Marie Delcourt.
Oui.
Et donc, elle est libre. Et c'est une traduction libre que vous faites vivre. Mais le vers grec, lui, n'est pas libre. Le vers grec, il est arrimé à une pulsation tout le temps. Tout le temps. Et en fait, le pulsionnel, en fait, il est en conflit avec cette pulsation du rythme. Et c'est, pour moi, c'est là le tragique. C'est ce combat. Mmh. C'est-à-dire que, évidemment, il n'est pas dans l'harmonie béate,
le combat entre la
déclamatoire, d'une espèce de rêve musical apollinien. Mais tout de même, c'est là tout le temps, tout le temps. Mmh. Et les appuis, ils sont tout le temps à l'intérieur du vers. Et particulièrement dans les chœurs, qui sont les expressions de la danse, ou même lorsque Électre dialogue avec le chœur, à l'arrivée du chœur, c'est un chant à deux, alterné en fait. C'est un chant où, et s'il y a chant, il y a mesure, il y a danse. C'est une danse entre le chœur et Électre. Une danse très complexe parce qu'il ne faut pas réveiller le reste endormi. Et donc il y a tout ce travail sur la douceur aussi. Comment faire pour alléger la douleur et la musique, le chant, la prosodie sont là pour essayer de faire vivre quand même ce qui est l'idée d'une paix possible, d'une harmonie soutenable quand même, en quelque sorte.
C'est sûr que nous, on n'est pas du tout là-dedans, en fait. On est dans la vision et la lecture du metteur en scène, tout en respectant quelque chose de ce théâtre, par la présence quand même de la danse, et de la percussion, etc. Et d'avoir gardé quand même la figure du chœur. Je pense qu'il y avait quand même une vraie volonté de s'emparer de quelque chose qui a été écrit il y a si longtemps et qui résonne si fort aujourd'hui, quand même très franchement d'un point de vue un peu politique, presque plus que poétique en fait. Et c'est sûr que nous, on a été, je pense, embarqués là-dedans. Pour en revenir à la question au tout départ, qu'est-ce que ça fait de traverser cet objet-là qu'on a fabriqué? On y laisse un peu de nous, parce qu'effectivement, on n'est pas forcément protégé par le poème, qu'on doit raconter ça de manière frontale, parce que, à mon avis, c'est la lecture de cette œuvre par Ivo Vanov. Enfin, moi, voilà, j'étais, le peu que j'ai pu m'extraire et quand j'ai assisté à certaines scènes, j'étais vraiment, je trouvais ça fou. Chaque phrase, de la résonance politique de chaque chose. Et c'est ce que j'aime, moi, en fait, dans ce répertoire.
C'était Signe des temps, une émission de Marc Wetzman, assistée de Nathalie Lempereur, avec à la technique U2 Diego Hac Lopez et à la réalisation Laurence Malonda. Dans un instant, une histoire particulière. All the while the world is turning to noise. Oh, the more that it's surrounding us, the more that it destroys.
turn up the signal, wipe out the noise.